Bonjour à tous et à toutes, il est 18h16, vous êtes dans votre moment culture sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Nous sommes 6 élèves d'une classe de première du lycée Albert Camus à Bois-Colombes. Au cours du mois de septembre 2024, nous sommes allés voir la pièce Big Mother de Mélodie Mouret. Cette pièce nous a apporté une certaine connaissance vis-à-vis du journalisme d'investigation dans notre société. Entre amour, danger et passion du journalisme, Mélodie Mouret nous offre un spectacle digne des meilleures pièces modernes. Dans cette pièce, nous suivons une journaliste d'investigation lors d'une de ses enquêtes à risque. Dans un premier temps, nous écouterons Julien qui nous parlera de la journaliste d'investigation Zhang Zan. Puis nous écouterons Gérard Davé, journaliste d'investigation, interviewé par Hugo et Juliette. Pour terminer, par la chronique de François sur les dangers du journalisme d'investigation de nos jours.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Bonjour Julien, donc vous allez nous parler de la journaliste d'investigation Zhang Zan, c'est bien ça?
Exactement.
Bien, vous avez la parole Julien.
Lors de la crise sanitaire de 2020, la journaliste d'investigation Zhang Zan a été la première à enquêter sur la situation à Wuhan, épicentre mondial de la pandémie de Covid-19. Zhang Zan, ex-avocate et lanceuse d'alerte chinoise, a révélé dans son enquête la véritable ampleur de la maladie que s'est forcé de cacher le gouvernement chinois. Des vidéos prises de son téléphone dévoilent un confinement strict, des hôpitaux surchargés, ainsi que des policiers s'efforçant de l'empêcher de filmer. La publication de ces vidéos lui aura valu une peine de prison de 4 ans en 2020, puis une réincarcération peu de temps après sa libération de mai 2024 par le gouvernement chinois. Ce dernier est assez restrictif en ce qui concerne la liberté d'expression et le droit à l'information, notamment sur des sujets sensibles et polémiques, comme c'est le cas de l'enquête de Zhang Zan.
Pouvez-vous nous expliquer quels sont les lanceurs d'alerte ?
Un lanceur d'alerte est une personne ou une institution ayant pour but d'alerter la population après avoir eu connaissance d'un danger, d'un risque ou d'un scandale avéré. Par exemple, Snowden est un informaticien américain naturalisé russe en 2022. Il a informé la population mondiale des affaires d'espionnage de la CIA, pour qui il a travaillé entre 2006 et 2009. Ceci en fait l'un des lanceurs d'alerte les plus emblématiques et célèbres.
Merci Julien, c'était très intéressant. Nos deux journalistes Juliette et Hugo vont dès à présent interviewer Monsieur Davé, journaliste d'investigation. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Bonjour Juliette.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Davé.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour Gérard Davé, vous êtes un journaliste d'investigation et chef du service reportage du journal Le Monde, mais vous êtes également l'un des plus grands journalistes d'investigation et auteur d'un grand nombre de best-sellers qui retracent vos enquêtes.
Nous sommes ravis de votre présence parmi nous et nous vous remercions de bien vouloir répondre à nos questions aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, nous souhaiterions vous poser quelques questions sur le métier de journaliste d'investigation ainsi que quelques questions sur des enquêtes que vous avez menées.
Alors comme nous l'avons dit précédemment, vous êtes un journaliste d'investigation. Selon vous, quel est le rôle d'un journaliste d'investigation au sein de la société ?
Le rôle d'un journaliste d'investigation, c'est de révéler des informations qui ne sont pas connues et qui sont cachées parfois au public. Et quand on les révèle, ça peut parfois faire progresser la démocratie et changer les choses. Donc c'est forcément révéler des informations qui sont utiles et à la progression du débat démocratique. Je précise juste que je suis pas chef du service reportage, mais c'est pas grave du tout. Il y a des informations qui circulent qui sont pas toujours exactes et c'est compliqué de les vérifier.
Très bien. Avez-vous déjà été victime de censure par votre journal sur certains articles ?
Jamais. Et pourtant, j'ai écrit des articles qui mettaient en péril, par exemple, les intérêts de l'actionnaire principal du journal Le Monde, qui s'appelle Xavier Niel, qui est donc le patron de Free. Par exemple, j'ai révélé des informations sur le roi du Maroc, qui avait un compte caché en Suisse, qu'il cachait, qu'il aurait dû déclarer. Et évidemment, il n'a pas été content quand j'ai révélé ça avec Fabrice Lhomme. Et ça a coûté très cher à mon actionnaire principal, parce que les contrats qu'il essayait d'avoir là-bas, évidemment, pour Free, c'est tombé un peu à l'eau, quoi. Mais il ne m'en a pas voulu, et j'ai sorti mon enquête comme je le voulais. Donc non, il n'y a pas de censure au monde.
Ok, bah tant mieux. Et en tant que journaliste, trouvez-vous que la liberté de la presse soit totalement respectée en France ?
Par rapport à d'autres pays, oui, on s'en sort vraiment très très bien. Je lisais un article il n'y a pas très longtemps sur la Turquie, par exemple, où on apprenait qu'ils allaient voter une loi qui faisait que quand vous écriviez un article, si jamais le juge estimait que ça pouvait être contraire aux intérêts du pays, on pouvait vous mettre en taule pour ça. Donc en France, non, on a une liberté d'écriture absolument totale. Évidemment, quand on travaille, par exemple, pour un média comme le Journal du Dimanche ou Europe 1 ou CNews, il est compliqué de critiquer Vincent Bolloré, je pense. Quand on travaille pour Le Figaro, c'est compliqué de critiquer aussi le groupe Dassault. Mais grosso modo, je pense qu'on a une liberté d'expression importante en France et qu'il y a des lois qui sont correctement faites et qui permettent de condamner les journalistes qui écrivent des bêtises et de respecter aussi leur droit à écrire ce qu'ils veulent. C'est pas parfait, mais on est mieux que d'autres.
Très intéressant.
Vous vous attaquez, entre guillemets, régulièrement aux plus grandes figures politiques de France, telles que Emmanuel Macron, François Hollande ou bien encore Éric Dupond-Moretti. Avez-vous déjà subi des pressions pour cela ?
Ces gens-là dont vous parlez sont des gens qui n'aiment pas du tout mon travail, par exemple. Donc Éric Dupond-Moretti, je pense, déteste ce que je fais. Macron, j'en parle pas. Et le pire, c'est Nicolas Sarkozy, qui, je pense, nous déteste vraiment. Mais objectivement, ils ont des raisons de ne pas nous apprécier, parce qu'on écrit des articles qui, parfois, leur valent de gros ennuis. Par exemple, quand on a révélé que Nicolas Sarkozy était sur écoute téléphonique parce qu'il avait fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, écoute téléphonique faite par la justice, ça lui a coûté ensuite une condamnation qui l'a empêché de se représenter à la présidence. Donc, évidemment, quand on révèle des choses sur les gens qui sont des gens importants, dans quelque domaine que ce soit, ces gens-là le vivent mal. Et ensuite, ils s'en prennent parfois un peu plus aux messagers qu'aux messages. Mais c'est le jeu de la démocratie.
Et lorsque vous enquêtez sur ces grandes figures politiques, est-ce compliqué de trouver des sources fiables ?
Des sources, c'est compliqué, et qu'elles soient fiables, c'est encore plus compliqué. Notre travail, nous, journalistes d'enquête, c'est de trouver des gens qui nous donnent des informations, on appelle ça donc des sources, et que ces informations soient fiables. Donc ça, c'est très compliqué. Ensuite, il faut vérifier ces informations. C'est pas suffisant que quelqu'un me dise quelque chose, je dois le vérifier. Donc ça, c'est très compliqué, et il faut réussir à convaincre ces gens de vous parler, alors qu'ils n'y ont pas intérêt. Donc là, c'est là que c'est intéressant, c'est un travail un petit peu de, un peu comme un espion dans un pays étranger, quoi. Il faut convaincre quelqu'un de vous parler, sachant qu'il n'a pas forcément le droit de vous parler. Donc c'est pas toujours simple, mais moi j'aime bien ça, j'aime bien cette zone grise, parce que à la fin, on écrit des choses qui peuvent servir au public, à l'intérêt général.
Effectivement, mais ça a l'air d'être un travail de fourmi pour trouver des sources. D'après les différentes enquêtes que vous avez menées, ainsi que votre expérience personnelle, pensez-vous que la politique ainsi que la justice sont corrompues en France, ou que du moins les deux soient liés ?
Non, je ne pense pas. Je pense que les hommes politiques et les femmes politiques font un travail formidable, et que pour quelques brebis galeuses, il n'y a que des gens qui bossent comme des malades pour l'intérêt public. Je le pense sincèrement, et ça me rassure quelque part. Et je pense que la justice, non, il y a peut-être éventuellement quelques corrompus, parce qu'il n'y a pas un secteur, il y a aussi des journalistes corrompus, il n'y a pas un secteur qui échappe à la corruption. Mais je crois que la justice fait un travail hyper efficace, hyper obligatoire, hyper nécessaire pour la démocratie. Par exemple, récemment, là, il y a en ce moment un sujet polémique qui est que la justice réclame que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter en 2027. Ils ont pris des réquisitions pour lui interdire. Eh bien, là, il y a le procès de la justice. Moi, la justice, elle fait son travail, c'est-à-dire qu'elle regarde les faits et elle décrète ce qu'il faut condamner ou pas. Et je pense qu'il faut respecter ça.
Très bien. Eh bien, c'est très rassurant de voir qu'en France, les politiques sont jugées comme des personnes lambda.
Merci Monsieur Davet, nous nous revoyons après une courte pause sur le titre Bozy de Avelino, feat Note 35, à tout de suite. I'm from a mad place, get your act together, get your act straight. Imagine Biggie never had faith, I felt like Diddy when the cash came. I'm doing numbers now with these notes, man, I never had £100. I was 23 with £100 foul, I ain't playing with chips, put £100 down. Everything's changed, 4x4s, everything's range. I don't chase girls, only Henny gets chased. When they wanna wave at us, we get waved, and that's every day. Yeah. Cause I remember being broke, I remember having joke girls take me for a joke. It was scary, and I pull up in the ghost. I'm just bossy, I don't boast, let's make a toast.
Bossy, I don't boast, I'm just bossy, let's make a toast and get poury. Drink it up for my story, that surely. You remember days I was poorly, everyone try ignore me. Now I'm living like bossy, so bossy, yeah. I've been dreaming of this, even through the days they didn't believe in the kid. How could I take a break when I'm trying to make my fam move from the fiends in the bits? I can never stop, don't be silly, don't be silly. If there's any problem, then my bros are getting drilly. But we smiling now cause we great. Shut down Libertine and go take If you know you're proper, put your bottles in the sky, yeah. Lift it up high in the air, lift it up high in the air, in the air, yeah. I'm nice, sauce forever dripping, man, I know I never dry, yeah. Man, I'm so high in the air, man, I'm so high in the air, yeah. Bossy, I don't boast, I'm just bossy. Let's make a toast and get poury.
drink it up for my story that I surely. You remember days I was poorly, everyone tried to ignore me. Now I'm living like bossy, so bossy, yeah. I remember having nothing, but I still had to share it with my brothers. I switched it quick, my gear got to shifting. Now I only chill with the piftings. Now I'm high off for life, I don't even smoke and I'm buzzing. But I do, I'm high off the spliffing. I'm sorry, mum, if you're listening. Bossy, I don't boast, I'm just bossy. Let's make a toast and get poury. Drink it up for my story, that surely. You remember days I was poorly. Everyone try to ignore me. Now I'm living like bossy, so bossy, yeah.
Nous venons d'écouter Bozy de Avelino feat. Note 35. Nous écoutons nos deux journalistes pour la suite.
Monsieur Davet, avez-vous déjà enquêté sur des disparitions de journalistes à travers le monde ?
Non, mais je sais qu'un collectif le fait qui s'appelle Forbidden Stories, qui poursuit leurs enquêtes justement, et c'est remarquable ce qu'ils font. J'encourage tout le monde à lire leurs enquêtes, notamment qui paraissent dans Le Monde. Et non, je n'ai jamais enquêté sur la disparition d'un journaliste. Non.
Ils ont un site internet, je vous encourage à aller le voir.
Est-ce que, en tant que journaliste d'investigation, vous révélez toujours tout ce que vous découvrez au cours de vos enquêtes ? Ou est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous garder de révéler certaines informations suite à l'impact et aux conséquences que cela pourrait avoir sur la société ainsi que l'opinion publique ?
C'est une très bonne question. Je révèle à peu près tout, mais il y a des domaines dans lesquels, parfois, avec mon collègue Fabrice Lhomme, avec, encore une fois, je travaille tout le temps, dans lesquels on s'interdit de publier quand ça peut, par exemple, mettre en cause la vie de quelqu'un. Pendant l'époque des attentats, en 2015, donc, on a été destinataire avec Fabrice Lhomme d'investigations, d'informations très intéressantes et très importantes concernant un homme qui était en fuite à l'époque, qui s'appelle Salah Abdeslam, qui était un terroriste, un des terroristes qui devait se faire sauter en France. Et en fait, ces informations-là, on ne les a pas sorties, on ne les a pas écrites, parce qu'il était encore en fuite et qu'on ne voulait pas gêner ou entraver le travail de policiers qui pouvaient éventuellement empêcher un terroriste de repasser à l'acte. Donc oui, il y a des fois où on fait attention à ce qu'on fait, on est les citoyens aussi.
Donc ce n'est que dans des cas dits « extrêmes », entre guillemets.
Oui, aucune pression ne nous empêche d'écrire quoi que ce soit. C'est nous qui décidons si, à tel moment, ça vaut le coup de le faire ou pas.
D'accord, je vous remercie.
Comment choisissez-vous les sujets sur lesquels vous enquêtez ? Y a-t-il certains critères particuliers qui vous poussent à creuser certaines affaires plutôt que d'autres ?
Deuxième très bonne question. Oui, les sujets, comme je le disais tout à l'heure, nous arrivent parfois des gens qui nous appellent, d'autres qui nous écrivent, d'autres qui nous envoient des mails. Voilà. Mais en règle générale, ce qui nous intéresse avec Fabrice, on fait un tri. C'est-à-dire qu'on prend les affaires qui nous parlent le plus. Et qu'est-ce qui nous parle le plus à l'âge qu'on a aujourd'hui ? C'est d'attaquer, et encore le terme attaquer n'est pas bon, de révéler ce que cache le pouvoir et qui est d'intérêt public. Il y a des affaires sur lesquelles on ne travaillera pas parce qu'on considère que ce n'est pas forcément passionnant ou que ça ne nous intéresse pas. Nous, on essaye de révéler la face cachée du pouvoir. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. Par exemple, il n'y a pas très très longtemps, il y a une dame, je raconte ça rapidement, qui nous a envoyé un mail. Elle habite dans le Doubs, dans le Jura, donc. Une toute petite maison paumée. Elle a Internet uniquement la nuit. Enfin, c'est compliqué pour elle. Son mari était chauffeur routier. Il a été tué dans un accident. Et il a été tué parce qu'il y a un pneu de la marque Goodyear qui a explosé. Et elle m'envoie un mail en me disant « J'aimerais révéler un scandale. J'ai enquêté toute seule et j'ai trouvé que d'autres pneus avaient éclaté, donc on est face à vraiment un énorme scandale mondial. » Et bien, avec Fabrice, on a mis 2 ans à enquêter là-dessus et on a fini par faire une grande série d'articles dans Le Monde cette année pour raconter ce qu'a fait cette dame, d'abord. C'est un travail incroyable. Et aussi parce que nous, ça nous parlait. Il fallait rendre justice à cette femme et il fallait aussi empêcher qu'il y ait d'autres morts. Voilà. C'est comme ça qu'on choisit les sujets. Il faut que ça ait un impact.
D'accord. Et donc certaines personnes vous contactent et c'est grâce à ça que cela vous aiguille pour faire des enquêtes.
Il nous faut toujours des gens qui nous aident. D'accord. On n'est rien sans une source.
Ok. Y a-t-il des enquêtes que vous avez menées sur des longues durées et qui n'ont pas abouti faute de résultats ?
Oui. Il y a des enquêtes qu'on a lancées avec Fabrice, et que j'ai lancées seul d'ailleurs, et qui n'ont jamais été publiées parce qu'elle n'était pas probante. Je me rappelle, j'ai écrit une page pour le service du Monde d'enquête, et cette page n'a jamais été publiée, parce que ma chef estimait qu'elle n'était pas très bonne, qu'elle n'était pas trop partiale, quoi. Et elle avait raison, en fait. Et donc, il faut ramener son orgueil et utiliser son humilité quand il en reste pour être conscient de ça. Et donc, il y a des sujets sur lesquels on aimerait écrire avec Fabrice. Et en fait, on a une excellente information. Et en fait, on ne peut pas l'écrire parce qu'il nous manque une confirmation. Et donc, si on ne peut pas la confirmer, on ne l'écrit pas.
Très bien.
Si vous pouviez interviewer n'importe quelle personnalité vivante ou décédée pour une enquête, qui serait-ce et pourquoi ?
Écoute, nous, on est réputés avec Fabrice pour aller porter la plume dans la plaie. Donc moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est d'interviewer un dictateur, un Poutine, un Trump, qui est un futur dictateur en puissance, parce que les journalistes, ou même un Netanyahou aujourd'hui, parce que les journalistes ne posent pas forcément les questions parce qu'ils s'auto-censurent, ils s'empêchent, ils sont contents d'avoir l'interview, donc ils ne posent pas toutes les questions forcément. Moi, objectivement, j'ai aucun intérêt, je ne suis pas journaliste politique, je ne suis pas journaliste international, je peux mettre les pieds dans le plat et j'aimerais bien interviewer ce genre de personnage.
Et vous pensez que vous pourriez le faire au cours de votre carrière ou
c'est
quelque chose
Non, je ne le ferai jamais. D'accord. Parce que, en fait, moi, mon travail, c'est d'enquêter. Et c'est là où je suis le meilleur. J'ai été, pendant un moment donné, j'ai animé une émission, par exemple, d'interview politique sur une radio concurrente, une petite radio, mais une radio quand même, c'était Radio Nova. Et je me suis aperçu à ce moment-là que je n'étais pas bon du tout en radio. C'est que je posais des questions, mais qu'en fait, mon talent principal, si j'en ai un dans le journalisme, c'est de passer du temps avec les gens pour les convaincre de me donner des informations ou de me dire des choses fortes. Et en un quart d'heure, 20 minutes, c'est quasi impossible de réussir à pousser quelqu'un à vous dire quelque chose. Il faut du temps et je ne l'avais pas et je n'étais pas très bon. Donc non, je ne ferai jamais ça. Et puis enfin, dernière raison, au monde, il y a des journalistes excellents dans le service politique international qui feraient ça probablement mieux que moi.
D'accord. Et voici donc notre dernière question afin de conclure cette interview. Quelle est l'enquête la plus intéressante et marquante que vous ayez menée au cours de votre carrière ?
Alors j'en ai fait beaucoup et je ne vais pas répéter la même chose que ce que j'avais fait avec l'émission d'avant. Donc... Il y a une enquête qu'on a faite pendant le Covid. Vous avez donc connu ces périodes de confinement. Vous étiez jeune, mais vous l'avez connu. Et on a fait une enquête avec Fabrice Lhomme, toujours. On était confinés chez nous. On s'emmerdait. Et bien, on était bien, mais on s'emmerdait. Et donc, du coup, on a proposé au Monde une longue enquête sur comment se fait-il qu'en France, pays 6e ou 7e puissance mondiale économique, on n'arrive pas à avoir de masques pour se protéger du Covid. Et donc, en partant de cette simple question... Eh ben, on a fait une enquête qui a été publiée sur 5 épisodes, 5 doubles pages, qui est beaucoup, beaucoup, et qui démontrait qu'en fait, le gouvernement savait qu'il n'y avait pas assez de masques, et donc il a préféré, en gros, dire des fausses vérités au public, plutôt que d'avouer qu'ils avaient mal fait leur travail pour obtenir plus de masques. Et on l'a écrite. Et ça, c'était intéressant parce qu'on était sur un domaine qu'on ne connaissait pas, le médical, le sanitaire. Et deuxièmement, il y avait peu de gens qui venaient nous parler. Et troisièmement, on pouvait rencontrer personne parce que tout le monde était confiné. Donc on a fait toutes nos interviews par visiophone et tout. Et en fait, ça a donné une enquête qui était passionnante, qui nous a donné envie d'ailleurs de poursuivre ce travail et peut-être qu'on continue à le poursuivre.
D'accord, merci pour votre réponse. Puis ben, c'est vrai, mais que pendant la crise du Covid, on s'est beaucoup posé la question de pourquoi on n'avait pas le masque. Donc je pense que c'est très intéressant de pouvoir avoir les réponses grâce à vous. Donc merci beaucoup Gérard Davet pour votre présence ainsi que vos réponses. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau de votre Moment Culture, en espérant vous y revoir très prochainement.
Merci de l'invitation.
Merci à vous.
Merci à nos deux journalistes et Monsieur Davet. Bonjour François.
Bonjour.
C'est à vous sur les dangers du journalisme d'investigation.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre chronique Votre Moment Culture, on s'intéresse aux coulisses du journalisme d'investigation et aux dangers auxquels il s'expose. Vous êtes journaliste et vous fouillez une affaire sensible. Pourtant, les risques sont gros et ce type de journalisme est exposé aux dangers. D'abord, il y a des pressions car certaines affaires peuvent provoquer de vrais problèmes à certaines personnes. Les journalistes d'investigation sont aussi souvent confrontés à des tentatives d'intimidation. On leur met la pression de toutes les manières possibles. Cela va des avertissements subtils aux menaces directes. Certains journalistes sont traqués et leurs téléphones et ordinateurs surveillés par la DGSI. Ensuite, il y a la sécurité physique. Leurs vies sont menacées et ils savent que certaines personnes seraient prêtes à tout pour les faire taire. On a malheureusement vu des cas tragiques, comme celui de Dafe Caruana, journaliste maltaise assassiné en 2017 pour avoir dénoncé des affaires de corruption.
Et qu'en est-il des conséquences physiques ?
Et même lorsque la sécurité physique n'est pas en jeu, il y a d'autres formes de répression, comme les procès en diffamation. Certains journalistes et leurs rédactions se retrouvent sous le poids de procédures judiciaires interminables, qui alors les pénalisent financièrement dans le but de les décourager et donc de les épuiser par tous les moyens.
Merci à vous François de cette chronique. Merci à tous et à toutes de votre présence et merci Monsieur Davet d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée sur Radio Campus Paris. We'll be right back.
We'll be right back.